Laudetur Jesus Christus.
Le pape va mieux, mais restera au moins une semaine encore au Gemelli au terme d'une semaine d'hospitalisation pour le Saint-Père. Son équipe médicale s'exprime publiquement lors d'un point presse. On y revient dès le début de ce journal. À la une en Israël, la famille Bibas dit ne pas chercher la vengeance, mais le gouvernement, oui. Hier, les corps de deux enfants Bibas tués en détention ont été remis par le Hamas, mais pas celui de leur mère. En Syrie, Bachar al-Assad est tombé, mais les sanctions économiques qui punissaient le régime et avec lui le pays n'en ont pas fini d'asphyxier ses habitants. Reportage à Damas. Et puis enfin, nous irons en Allemagne avant les législatives de dimanche. Le centre droit est en tête, suivi par le parti d'extrême droite, l'AFD.
Radio Vatican, le journal, Marie Duhamel.
Bonsoir à tous. Pour la première fois depuis le début de l'hospitalisation du pape la semaine passée, son équipe médicale a donc donné rendez-vous à la presse. Des journalistes du monde entier qui se sont retrouvés il y a une demi-heure environ à l'entrée du Gemelli à Rome pour prendre des nouvelles de la santé du souverain pontife. Affecté, on le sait, par une pneumonie touchant ses deux poumons, François va mieux mais n'est pas hors de danger. Jean-Charles Pizzoli, pardon.
Tout d'abord, Marie, oui, les informations données ce soir sur la santé du pape sont plutôt rassurantes. On savait déjà depuis deux jours qu'il reprenait progressivement des forces, que la fièvre avait cessé, que les résultats des analyses de sang étaient encourageantes et qu'il n'y avait pas de difficultés cardiaques, il respire de façon autonome. Tout cela a été confirmé ce soir par les médecins. Les informations ont été données par Luigi Carbone et l'assistant personnel du pape et Sergio Alfieri de la polyclinique Gemelli. Il précise que tout au long de son hospitalisation, le pape François s'est présenté comme un patient docile, obéissant. Il a été entouré d'une équipe de spécialistes, de pneumologues, de cardiologues et d'autres. Et c'est ensemble que les médecins, tout au long de la semaine, ont rédigé les bulletins de santé publié chaque soir. Le Saint-Père a toujours voulu qu'on dise la vérité. Il n'y a donc pas eu de non-dit. Il faut dire que François est fatigué. Il est fatigué à cause d'une activité intense, d'un âge avancé, d'une infection polymicrobienne qui inclut donc la présence de virus et de bactéries. Il s'agit, informent les médecins, d'une pathologie chronique qui donc ne se guérit pas, mais que l'on peut contrôler. Des phases plus aiguës ne sont pas à exclure maintenant ou à l'avenir. François n'est en tous les cas pas en danger de mort, mais la situation est sérieuse. Il n'est donc pas hors de danger totalement. Il a une lourde thérapie médicamenteuse, une thérapie qui a été adaptée tout au long de la semaine, mais qui commence à faire de l'effet, ce qui lui a permis de reprendre des forces, de reprendre aussi un petit peu d'activité. Il travaille avec des collaborateurs, lit, regarde la télé, a signé des documents, mais on le gardera à l'hôpital encore quelques jours, au moins toute la semaine, car disent les médecins, on sait que dès qu'il rentrera à Sainte-Marthe, il se remettra au travail.
Merci Jean-Charles Puzzoli. Puis tous ces détails seront bientôt à retrouver sur notre site internet, bien sûr, vaticannews.va. La conférence est cependant toujours en cours. Et alors que le pape reste astreint au plus grand repos, les fidèles restent en prière pour son prompt rétablissement. Comme hier soir en Argentine, le visage de François était projeté sur l'obélisque situé au centre de sa ville natale. À Buenos Aires, deux jours de deuil national ont été décrétés par le président Milei après la remise par le Hamas des corps d'Aria et les Krif Bibas hier. La mort de ses deux enfants israélo-argentins suscite l'émoi de toute une nation. En Israël, l'armée affirme que le nouveau-né de 8 mois et son frère de 4 ans ont été tués à main nue. Le Hamas sera puni, répète Benjamin Netanyahou, tandis que la famille Bibas accuse le Premier ministre d'avoir abandonné les otages du 7 octobre. On fait le point avec Julie Ganancia.
Israël semble s'enfoncer un peu plus tous les jours dans l'horreur. L'armée israélienne a indiqué ce vendredi que les deux frères Bibas, âgés de 8 mois et 4 ans lors de leur enlèvement par le Hamas le 7 octobre 2023, avaient été tués par des terroristes à main nue au début de leur captivité. Cette révélation intervient dans un contexte tendu alors que le Hamas a enfreint l'accord de libération des otages en renvoyant hier le corps d'une femme gazaoui au lieu de celui de Shiri Bibas, la mère des enfants. Le Premier ministre Benjamin Netanyahou a promis d'agir avec détermination pour ramener Shiri et tous les autres otages, jurant également, je cite, que le Hamas payera le prix fort pour cette violation cruelle et malveillante de l'accord. Fin de citation. Malgré ces révélations qui mettent à mal un cessez-le-feu déjà fragile, personne ici ne souhaite prendre de décision qui pourrait mettre en danger la sortie de 6 otages vivants demain. Leur libération semble la priorité. À Tel Aviv, Julia Ganancia pour Radio Vatican.
Le Hamas qui confirme qu'il libérera bien demain 6 otages israéliens, bel et bien vivants donc, conformément à ce que prévoit l'accord de trêve à Gaza. Israël devrait libérer en échange 602 prisonniers, affirme une ONG palestinienne. Et puis toujours au Proche-Orient, la guerre se déporte de Gaza en Cisjordanie. Benjamin Netanyahou s'est rendu ce soir dans le territoire palestinien occupé, dans le camp de réfugiés de Tul Karem, où l'armée israélienne a intensifié ses opérations depuis des attentats hier soir dans le centre d'Israël. 3 bus ont été détruits par des explosions. Lui aussi s'est rendu dans un camp de réfugiés, mais pour écouter, aider, pleurer même avec les 120 Syriens de Kafr Lakos en Liban. Ce vendredi, le préfet du Dicaster pour le service du développement humain intégral, le cardinal Cherny, a ainsi poursuivi sa visite pastorale dans le nord du pays du Cèdre. Et puis un émissaire de l'UE était également à Beyrouth. Aujourd'hui, la commissaire européenne pour la Méditerranée a rencontré le président Aoun. Elle a assuré que les 27 verseront un demi-milliard d'euros de financement, mais à deux conditions, une restructuration du secteur bancaire et quand l'accord conclu avec le FMI prendra fin. La Syrie connaîtra-t-elle un jour une reprise économique? Les nouvelles autorités promettent de reconstruire le pays dévasté par 14 ans de guerre et les Européens envisagent un allègement progressif des sanctions imposées au régime de Bachar al-Assad. Mais en attendant, les Syriens continuent de subir, asphyxiés, les conséquences de ces mesures économiques. Reportage à Damas de notre correspondant Mohamed Erami.
Dans l'espoir d'un jour meilleur, Moaz Amoui, la quarantaine passée, ouvre son restaurant populaire dans le quartier de Mezzeh à Damas, la capitale syrienne, espérant pouvoir vendre ses plats et repas prêts à emporter et rentrer chez lui avec quelques provisions et de l'argent. Moaz explique que cela fait plus de 10 ans qu'il vit ainsi, en raison de sanctions économiques imposées à la Syrie, qui ont transformé le pays en un état économiquement isolé du reste du monde.
Auparavant, nous étions capables de vendre et d'acheter, car la Syrie connaissait un grand afflux de visiteurs étrangers, notamment en provenance des pays du Golfe arabe et des pays européens. Ils avaient de l'argent à dépenser, y compris en dollars.
La situation de Moaz est similaire à celle de millions de Syriens qui ont été frappés par des sanctions économiques en raison des violations des droits de l'homme par le régime précédent. Selon le professeur d'économie à l'université de Damas, Ali El-Sayed, les principales sanctions incluent l'interdiction commerciale, l'embargo pétrolier, l'interdiction des transactions financières et les restrictions de voyage.
Le peuple syrien ne doit pas être puni pour les erreurs du régime précédent. Il a le droit de voir des résultats positifs. Et la nouvelle administration doit faire preuve d'une grande transparence envers la communauté internationale.
L'économie syrienne a connu un déclin majeur en 2020 après que les États-Unis ont imposé de nouvelles sanctions sévères connues sous le nom de « loi César » qui comprenaient un gel des actifs et l'interdiction des échanges commerciaux avec les pays du monde entier.
Mohamed Erami, à Damas. Crise économique, sentiment de déclassement, guerre en Ukraine. 60 millions d'électeurs sont appelés aux urnes ce dimanche en Allemagne. Des législatives anticipées jugées cruciales alors que la première puissance d'Europe s'essouffle. Et un parti a su tirer profit du mécontentement grandissant. L'AFD, parti d'extrême droite qui a principalement fait campagne sur l'immigration. Et malgré ses sorties parfois outrancières, le parti est aujourd'hui la deuxième force politique du pays dans les sondages, derrière la CDU de centre droit, mais devant les sociaux-démocrates sortants. Selon Paul Meurice, ce vote pourrait accentuer les fractures entre l'Ouest et l'Est du pays, où l'AFD a fait ses meilleurs sports. Il est secrétaire du comité d'études franco-allemandes à l'IFRI.
Là, le fait que ce parti arrive premier partout, c'est aussi révélateur de ce sentiment de déclassement très fort des Allemands en général, mais surtout à l'Est. Puis la différence principale, c'est qu'à l'Ouest, on a encore des structures sociopolitiques qui maintiennent les populations, les électeurs dans un cadre démocratique et celui de la RFA. On a à l'Ouest encore une socialisation politique qui passe par, au niveau local, les syndicats, les églises, les élus locaux, les partis politiques, la presse. Tout ceci résiste encore. À l'Est, tout ceci avait été détruit à l'époque du régime communiste. Les églises évangéliques luthériennes avaient joué un rôle important au moment de la réunification et ont été ensuite porteuses notamment de personnalités social-démocrates. Angela Merkel était une exception dans le monde protestant. Et on a ensuite vu tout ça retomber. Les syndicats n'ont pas pris, les églises restent marginales dans la vie politique au sens quotidien, ce qui fait que les électeurs n'ont plus de barrières, n'ont plus de cadre et c'est un électorat très volatile. Un électorat d'autant plus qui mobilise les anciens abstentionnistes et donc aucun intérêt à voter pour un autre parti que l'AFD qui représente à la fois la protestation mais aussi ce symbole d'un renouveau ou d'un ras-le-bol général sur certaines populations et qui ont l'impression d'avoir été lésées.
Des propos recueillis par Olivier Bonnel. Et puis à deux jours du scrutin, le gouvernement accuse la Russie d'avoir profité du moment pour propager de la désinformation sur les réseaux sociaux afin de détruire la confiance dans la démocratie. Un russe qui a par ailleurs été arrêté ce vendredi, soupçonné d'avoir projeté un attentat à motivation politique à Berlin. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Merci de votre fidélité aux ondes de Radio Vatican. L'actualité du monde et de l'Église dans le monde revient lundi matin à 8h30. D'ici là, bien sûr, n'hésitez pas à vous rendre sur notre site internet vaticannews.va. Excellent week-end.